Bienvenue
sur J'enrage, votre émission. Lilloise.
Bienvenue sur J'enrage, donc sur RCV 99 FM. On est le dimanche 23 février, il est un peu plus de 4h. C'est Annaëlle qui vous parle, et bon, je suis en compagnie de Zab et de Suzanne.
Yo.
Yo.
Et donc au programme aujourd'hui...
Nice.
Au programme aujourd'hui, Suzanne et moi allons revenir rapidement sur toute la polémique autour de la pseudo-théorie du genre que je vais éviter personnellement d'employer parce que ce terme commence sérieusement à m'agacer. Et Zab parlera de la visibilité et de l'intérêt de représenter ou de représentation des personnalités LGBT dans les médias et leurs intérêts personnels à se outer ou pas d'ailleurs. Voilà. Suzanne, je te laisse la parole.
Oui, donc en fait, on avait avec Anaëlle un peu, comment dire, l'ambition d'essayer de retourner sur cette polémique qui a commencé depuis. C'est depuis septembre que le programme de l'ABCD de l'égalité a été lancé par septembre 2013, par Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale. Et puis, ça a, comme un effet boule de neige, entraîné un certain nombre de réactions assez affolantes, qui aussi, entre la mauvaise foi, le conservatisme poussé à l'extrême, la violence verbale et l'hypocrisie, enfin voilà. Bon, et depuis à peu près 2-3 mois, les réactions s'accélèrent, puisque en gros, ce qui se passe, c'est que ce programme de l'ABCD de l'égalité, donc je l'ai pas sous les yeux et le souci n'est pas là, mais c'est qu'il promeut en fait d'une certaine manière ça fait suite en fait à l'introduction du terme genre dans les manuels des SVT, qui est une polémique qui date de quelques années, d'il y a quelques années, et là le fait que le gouvernement ait lutter pour que on lutte contre les discriminations discrimination de sexe et contre les sexualités, etc., enfin toute forme de discrimination également raciale à l'école, a en fait tout simplement critiqué par toute une frange, la frange droitiste, nationaliste et extrême droitiste qui s'est exprimée dans les médias. Donc quand est-ce que ça a commencé à peu près? Je vais pas faire une espèce de petite chronologie qui n'en est pas une. Vincent Peillon a demandé à Téchéné de faire un rapport au sujet des discriminations LGBT-phobiques. Et ont principalement été ressorties de ce projet les discriminations concernant le sexe et les discriminations de genre plutôt et les discriminations contre l'orientation sexuelle, voilà. Parce que comme j'aime pas trop le mot orientation, je cherche à chaque fois un autre terme, mais je sais plus lequel. Bref, et en fait, donc, sont passées à la trappe les discriminations transphobes, enfin, du moins le harcèlement scolaire à l'égard des enfants trans. Mais donc, ça, j'y reviendrai juste après. Donc, vous avez dû entendre parler de Farida Belghoul, qui fait partie des figurantes de la marche des beurs et qui actuellement se rapproche de quelqu'un, de Alain Soral, dont on connaît les positions dangereuses, et qui créé un site, puisqu'il ne s'exprime plus maintenant dans les médias, il était plus ou moins évacué, donc il a un site qui s'appelle Égalité et Réconciliation, qui a rapporté notamment un entretien avec Farida Belghoul, qui donc vous avez certainement entendu parler du fait que le 13 décembre 2013, elle lance l'initiative de journée de retrait de l'école, en invitant les parents à retirer leurs enfants de l'école une journée par mois à partir de janvier 2014, en justifiant ça par la lutte pour l'interdiction de la théorie du genre à l'école et contre les soi-disant cours d'éducation sexuelle pensés par l'éducation nationale. Et donc c'est elle qui a lancé la rumeur de cours de masturbation à l'école, quoi.
À partir de 3 ans, tout ça.
Voilà, c'est ça. Ensuite, donc j'ai retenu aussi l'intervention de Jean-François Copé, puisque donc il nous a bien fait rire avec ses pains au chocolat il y a quelques temps. Et donc là, maintenant, c'est là pour l'introduction du livre Tous à poil, qui figure dans la bibliographie qui est destinée aux enseignants pour le programme scolaire. Et en fait, en gros, il dit, il voulait donc que ce livre soit retiré du programme, et il dit, il y a environ une semaine, du coup, le 18 février, que le livre aurait été retiré de la liste. J'ai envie de le féliciter pour ce magistral combat essentiel. Mais en fait, en réalité, le livre faisait partie des bibliographies complémentaires. Enfin, pour dire qu'il y a vraiment une espèce de parano qui consiste à grossir en fait un micro, par exemple un micro truc, à savoir un livre destiné à des enfants qui, en fait, en réalité, enfin, moi j'ai vu ce livre. C'est vraiment loin d'être. Enfin, ça n'a déjà aucun rapport avec ce qu'on peut parler genre ou ce qu'on peut entendre par genre. Il s'agit juste de décomplexer la nudité. Enfin, je vois pas en quoi c'est. C'est flippant. Mais du coup, oui, Anaëlle.
Ouais, je voulais juste rebondir sur ce bouquin là, Tous à poil, parce que c'est aussi une maison d'édition et qui propose, mais depuis ça, des nombreuses années, et ça n'a jamais soulevé qui que ce soit, enfin fait se soulever qui que ce soit plutôt. C'est une maison d'édition, Tous à poil, qui édite des bouquins pour enfants et qui s'est plus ou moins spécialisée justement dans la diffusion de livres pour enfants autour de l'égalité entre hommes et femmes et de lutte contre l'homophobie. Et Jean-François Copé, qui n'avait jamais entendu parler de cette maison d'édition, justement, s'est soulevé contre ça il y a à peu près une semaine, mais ça fait plusieurs années qu'elle existe. Et il y a j'ai eu ça dans La Voix du Nord de jeudi, ceux qui veulent retrouver l'article. Justement, les libraires, il y a eu une mobilisation de libraires, en fait, qui se sont mobilisés contre ce mouvement de censure. Et en fait, ils ont intitulé leur mouvement Tous à poil contre la censure. Et donc, en fait, ils posent nus avec des livres de cette maison d'édition ouverts pour cacher leur partie intime. Et c'est assez joyeux comme mouvement de protestation. Et voilà, la photo est dans le journal et c'est assez sympa.
D'accord. Ouais, j'avais pas du tout entendu parler de ça.
Ça a été aussi pas mal relayé par les BDistes, blogueurs sur Internet, ce truc de Tous à poil, quoi.
Bah bon, d'accord. Et oui, voilà. Bah, d'ailleurs, enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que ce qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est que le programme pédagogique de l'égalité ABCD nananana n'est pas mené dans toutes les écoles, mais dans 275 écoles. Donc, je sais pas combien il y a d'écoles en France, mais il doit y en avoir quand même largement plus. Donc voilà. Ensuite, donc Vincent Payon a plusieurs fois, enfin, il y a eu plusieurs recalibrages, plusieurs de la part notamment du gouvernement, puis ensuite il y a eu des interventions également, des pétitions qui ont circulé de la part de chercheurs, chercheuses en genre, et souvent aussi en lien avec la recherche autour de l'éducation, puisque donc sont quand même concernés un peu plus directement. Et donc Vincent Payon a quand même, comment dire, précisé au Sénat, il y a pareil à peu près une semaine, nous ne sommes pas pour la théorie du genre, mais pour l'égalité des sexes. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, puisque donc ça, je reviendrai un peu plus loin. L'idée, c'est que même si théorie du genre, comme Manuel va certainement en parler, on est beaucoup à avoir précisé, reprécisé, puis réasséné un peu comme une espèce de coup de marteau, que le terme théorie du genre n'existait pas, que c'était une fiction médiatique, qu'il y avait des études de genre. C'est pourquoi est-ce qu'on précise des études de genre, ça veut dire qu'il n'y a pas un courant idéologique, c'est un concept qui articule, qui permet en fait de conduire certaines recherches. Fanel t'en parlera certainement mieux que moi, mais ce que je voulais dire par là, c'est que là on voit dans la phrase de Vincent Payon qui est évacué le terme genre et qui est remplacé par la question de l'égalité des sexes. Donc on revient quoi finalement, on revient au strict une stricte question mathématique. Derrière, moi j'entends beaucoup la question des salaires, parce que c'est d'ailleurs ce dont Vincent Payon a parlé, alors que oui, les salaires c'est important, enfin la question des discriminations au travail et des différences de salaire, c'est évidemment une question importante, mais ça l'est loin d'être la seule, et des discriminations sexiste, mais c'est aussi, comment dire, quand on évacue le concept de genre, c'est aussi finalement, comme tu disais Zab tout à l'heure, tu me disais, on revient à un débat assez binaire où on a l'impression que, bah voilà, en fait on veut comment dire, garder une catégorie homme, une catégorie femme bien, bien mise en parallèle sur une balance, et puis qu'on puisse comme ça peser un peu qui est égal par rapport à l'autre. Donc ça, j'y reviendrai aussi un peu après, parce que ça fait partie des choses qui m'ont un peu dérangée dans la façon dont les interventions, même de ceux et celles qui luttent en faveur de ces programmes-là, d'une avancée vers moins de discrimination, moins de violence, etc. Je suis pas toujours d'accord avec les termes qu'ils emploient, parce que bien sûr qu'il y a des conflictualités au sein même des études de genre, et c'est peut-être ça aussi justement qui n'en fait pas une idéologie au sens bloc et unitaire du terme.
Pas un dogme, en tout cas comme il le laisse penser. Et moi j'aimerais bien revenir aussi sur ce que tu disais. Je trouve que le fait de revenir à un système hyper binaire comme ça, avec une égalité homme-femme, ça fourvoie un peu les débats, parce que ça encourage les gens qui sont pas d'accord avec cette égalité, à aller chercher les différences entre un homme et une femme.
Ouais.
Or, bah, forcément, il y en a. Enfin, je veux dire, ouais, ouais, les hommes, ils ont pas des gros seins comme les femmes, quoi. Bah, ok, mais c'est débile. Du coup, ça, je trouve que ça a tendance à orienter le. À, pas à le simplifier, mais à orienter le potentiel débat vers un truc inintéressant au possible, quoi.
Voilà. Et qui détourne le sujet d'ailleurs. Et bah du coup moi je voudrais juste revenir rapidement parce que il y a un truc phénoménal qui a été créé quand même par Olivier Val, donc qui est président national de l'UNI, c'est l'Union nationale interuniversitaire, et donc il a créé l'Observatoire de la théorie du genre. Alors ça j'adore, franchement je vous donne l'adresse du site parce que à lire avec un. Enfin, en allant feuilleter 2-3 articles, etc., avec un œil critique, c'est assez rigolo. Alors évidemment, on rit jaune, mais ils se contredisent quand même vachement. Et donc, c'est www.théoriedugenre.fr. Et j'ai voulu parler un peu de ça parce que dans un article du 19 février, le début de l'article commence par « À l'heure où le gouvernement s'évertue à nier l'existence de la théorie du genre, qu'il prône pourtant dans ses documents officiels, et je ne suis pas allée plus loin, parce que déjà... le fait que le gouvernement nie l'existence de la théorie du genre est tout à fait logique parce que justement on parle d'études sur le genre comme Suzanne l'a dit tout à l'heure et non pas de théorie du genre parce que théorie du genre ce serait quelque chose d'hyper dogmatique à asséner et à imposer à tout le monde alors que les études sur le genre ça permet déjà une recherche principalement d'où le fait que ce soit des études et
c'est comme si un peu même si c'est pas exactement la même chose mais c'est un peu comme si on disait par exemple, je suis en master de lettres. Tu fais de la théorie de la littérature en fait.
Ouais, ouais, voilà.
Que, donc tu vas nous vendre ton idéologie. Enfin, je sais pas. Je fais un parallèle qui est peut-être pas très.
Non, mais ouais, non, mais c'est comme, en philo. Si moi je fais des études de philo, bah du coup, on fait la théorie, je sais pas, évolutionniste, tout ça, la théorie évolutionniste en sociaux, mais enfin voilà. Alors que non, quand on fait des études de sociaux, on voit tous les courants, et enfin bref.
Et donc. T'es un mathématique, quoi. Tu prônes une vision du monde hyper mathématique et on devrait tous blablabla.
Ouais, puis après, t'as tout le truc sur les mathématiques entre les chiffres arabes et les chiffres romains. Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge.
C'est des théories, quoi.
Ouais. Non, enfin bref, voilà. Donc, c'est ce terme m'agace un peu. Et donc, je ne suis pas allée plus loin dans l'article parce que l'article en question, là, qui parle des documents officiels... du gouvernement, il y a un lien. Et donc, je suis allée sur le lien. Et donc, ça renvoie à un article qui comprend 11 preuves que la théorie du genre existe. Donc ça, c'est sur l'Observatoire de la théorie du genre. Et donc, j'ai repris certaines de ces preuves qui, en fait, n'en sont absolument pas. Parce que, par exemple, la première raison, ça parle de la circulaire du Premier ministre, donc de Jean-Marc Ayrault, qui invite ses ministres à lutter ou à se former contre les stéréotypes de genre. Donc, se former contre les stéréotypes du genre, c'est adhérer à la théorie du genre. On est bien d'accord. Je vous en dis comme ça 2-3 et puis on reviendra dessus peut-être tous ensemble. La deuxième, c'est une lettre de mission donc, du Premier ministre à Najat Vallaud-Belkacem, ministre du droit des femmes, qui lui demande de lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Il y a aussi en troisième lieu le soutien officiel du gouvernement à la ligne Azure, donc qui est un dispositif dépendant de SIDA Info Service et qui met en place des documents pédagogiques à usage des écoles, des collèges, des lycées, etc. Donc soutien officiel du ministère de l'Éducation nationale. Et donc l'observatoire met en avant un dictionnaire mise en ligne par la ligne Azure, qui reprend, soi-disant, les thèses les plus radicales de la théorie du genre. Et donc l'exemple mis en avant, c'est la définition d'identité de genre. Et donc dans ce dictionnaire mis en place par la ligne Azure, on retrouve exactement la définition de ce qu'est une identité de genre, c'est-à-dire le sentiment d'être un homme ou une femme. Pour certains, le sexe biologique coïncide avec ce ressenti. Pour d'autres, le sexe génital et identité de genre ne correspondront pas. Voilà, donc je ne sais pas en quoi ça prouve l'existence de la théorie du genre. Enfin, voilà, il y a 11 preuves comme ça qui les unes recoupent les autres. Et en gros, tout ce qui apparaît là-dedans et ce qui est mis en gras, en plus les soi-disant preuves sont mises en gras, en jaune, dans l'article, etc., parle de lutte contre les discriminations Principalement discrimination homophobe et de lutte contre les stéréotypes de genre, donc pour prôner l'égalité homme-femme. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant parce que je trouve ça hyper hypocrite en fait de revenir sur des trucs qui effectivement sont prônés par le gouvernement et qui reprennent pas du tout l'idée d'une théorie. D'une théorie, clairement, mais de lutte contre les discriminations. Dans ces cas-là, l'école ne lutte plus contre aucune discrimination. On parle plus, je sais pas, de l'esclavage en histoire et de ce qui en a été fait, parce que du coup, c'est la discrimination contre les Noirs. On parle pas de la guerre d'Algérie ou de la marche pour les beurs. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça complètement hypocrite et déplacé. Surtout que c'est ça n'a rien à voir, parler de discrimination et de lutte contre les stéréotypes et d'une théorie sur le genre, ça n'a rien de dogmatique, etc. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voulez intervenir ou pas, mais sinon, je dis deux, trois mots de plus, mais c'est tout.
Non, je pense que tu as été assez claire. Et plutôt, je pensais que peut-être on pouvait revenir après, mettre un petit moment de musique et puis revenir après discuter de toutes les choses qui nous ont un petit peu brusquées, qu'on a envie de aussi peut-être se positionner un petit peu dans le débat éventuellement, et puis très rapidement toutes les trois en discuter, et puis après Zab reviendra sur la visibilité des sexualités homo, voilà, et puis des visibilités des LGBT, pardon. Et donc voilà, du coup, on va vous balancer une chanson de David Bowie qui est extraite de l'album Hunky Dory et qui s'appelle Queen Bitch.
At an all-time low, 'cause she's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. I love her, she's so switchy in her satin and tan, in her rock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh God, I could do better than that. Old-time ambassador, a sweet-talking night-walking games. Oh, she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and she'll lay it right there. Thank you.
voilà, c'était donc David Bowie, Queen Bitch, de l'album Hunky Dory, qui date de 1971. On revient et on termine sur la question du débat autour de la pseudo-théorie du genre, comme l'avait mentionné Anaëlle. Et je sais pas, Anaëlle, tu veux commencer ?
Bah n'importe, enfin c'était... Non, pas forcément, allez-y. Ou... C'était... Enfin... Si vous voulez. C'est on en parlait un peu en off, mais justement le fait que bon, on n'arrête pas de dire que la théorie du genre n'existe pas, etc. Et finalement on réemploie les termes pour mieux la critiquer. Et ce qui est, enfin, ce qui est, moi, ce qui me gêne, c'est d'entendre parler de la théorie du genre, alors qu'éventuellement on pourrait, enfin, si les études sur le genre c'est quelque chose de trop, je sais pas, trop hypocrite pour certains, etc. Qu'on parle de théorie au pluriel dans ces cas-là, ou et voilà, le singulier m'agace, et je trouve ça aussi hyper hypocrite par ceux qui sont contre ces études sur le genre, de parler d'idéologie, parce qu'ils essaient, en critiquant les études sur le genre, d'affirmer leur propre idéologie, leur propre système de valeurs hyper conservateur et qui reste binaire, avec des stéréotypes genrés hyper marqués, et enfin qu'on voit plus depuis un moment, quoi. Et
ouais, justement, je voulais revenir sur le terme de binarité, parce qu'on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Et donc en fait, ce qui est un peu étonnant, je trouve, parce que dans les explications que donnent les pétitions qui circulent, par exemple, de la part de chercheurs et chercheuses en genre, dans l'éducation, etc., est rétabli finalement, enfin, est rappelé, et je pense que c'est pour, à mon avis, hein, des questions de lisibilité, en partie, et aussi de consensualité, c'est-à-dire que, eh bien, il y a des choses qu'en fait on sait qui vont pas, enfin, il y a des choses que certainement c'est les auteurs des pétitions savent qu'elles ne vont pas être acceptées, qu'elles vont être considérées comme une position extrême, etc. Mais ce qui me frappe, c'est que finalement est réexpliqué quelque chose de l'ordre des acquis, en fait, des études sur le genre, on va dire, enfin, certaines lignes théoriques acquises par les études sur le genre, qui datent en gros des années 70-80, à savoir que le concept de genre a été là pour distinguer, pour être distingué du sexe, et pour pouvoir en fait réfléchir sur finalement tout ce qui concerne les signes ou les acquis, le conditionnement social, culturel, etc., distingué de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le biologique. Mais aujourd'hui, enfin, je dirais pas, enfin, aujourd'hui, on est quand même un peu moins sur ces questions-là, hein, depuis une bonne vingtaine d'années, même si je veux pas non plus m'avancer d'une des dates, etc. Mais on est un peu à une ère, comme je disais tout à l'heure en off, justement, à une ère post-genre, à une ère post-féministe, où on questionne cette opposition binaire, où on questionne aussi l'idée qu'on pourrait, parce que finalement, cette distinction entre sexe et genre nous ramène aussi à l'idée qu'un jour, on pourrait arriver à un stade de neutralité totale, où on se serait débarrassé complètement des espèces de trucs en surface, des acquisitions sociales, et qu'on arriverait à un truc un peu abstrait. Sauf que si on parle du biologique comme une espèce d'ancrage, d'un ancrage terrestre duquel finalement, enfin, qui est l'espèce de base, de source, etc., desquelles on peut pas se défaire, eh bien, on revient finalement à quelque chose d'assez binaire où il y aura toujours du 1 et du 2, quoi, en fait. Et aujourd'hui, on est en train de questionner ce truc-là, de 1, est-ce qu'il y a toujours un 1 qui est face au 2, etc., tout ce truc un petit peu binaire qui, en plus, il faut le dire, reste aussi dans un truc assez souvent qui a du mal, en fait, de se départir également de la question du genre, qui rapporte finalement à la masculinité dans le groupe d'hommes et féminité dans le groupe femmes. Et on a l'impression qu'un peu il n'y a pas de queerisation finalement de ces questions-là, etc. Bref, tout ça pour dire que dans les propos que du moins les pétitions, les interventions qu'on fait certaines chercheuses en genre dans des journaux comme Le Monde, Libération, etc. Par exemple, il y avait une pétition qui a circulé sur qui a été lancée par les invités de Mediapart début février, et qui, je cite, précise: il n'a jamais été question de transformer les filles en garçons et les garçons en filles. Nous souhaitons simplement que chacun et chacune trouve sa voie selon ses aptitudes aptitudes et ses compétences, quel que soit son sexe. Nous nous efforçons de questionner ce qui semble aller de soi, ce que d'aucuns appellent la nature, comme les façons de dire le masculin et le féminin afin de laisser s'épanouir les capacités chez l'enfant. Donc oui, évidemment, enfin, je suis à la fois d'accord avec ça et pas d'accord, c'est-à-dire il n'a jamais été question de transformer les filles en garçons et les garçons en filles, répondre à la parano des anti-gender, mais c'est aussi une façon de rompre toute solidarité avec les trans. Enfin, moi, c'est aussi comme ça, c'est comme ça que certains l'ont lu, et ce avec quoi je suis d'accord. Mais c'est évidemment que c'est pas évident tout ça. Mais c'est pour dire que finalement, c'est pas comme si justement il y avait un bloc de gender qui était tous d'accord ensemble, et voilà. Donc, bref, c'était pour préciser un positionnement. Je sais pas si ça résonne en vous.
Moi, plutôt, effectivement, c'est, il n'y a pas, enfin, je suis un peu une fixette là-dessus, mais d'où aussi le terme d'étude, enfin, je veux dire, il n'y a pas un seul courant où tout le monde est d'accord, quoi, les études sur le genre ne font pas consensus chez tout le monde, et il y a différents apports de différents chercheurs qui se contredisent les uns les autres, et voilà, enfin, ce qui apporte leur voix au débat, ce qui est aussi intéressant, et...
Justement, ça me fait penser que la question d'idéologie, je trouve, est extrêmement biaisée, dans la mesure où, travaillant en plus cette année, enfin, dans un lycée et tout ça, enfin, en gros, pour les institutions, quoi, et donc étant censé respecter une certaine éthique, enfin, qu'on te fait bien comprendre, hein, par certains sous-entendus, en te disant, voilà, nanana, même si dans le lycée où je travaille, ils sont assez ouverts, mais bon, c'est pas le problème. Et il s'avère que mon collègue m'a plusieurs fois, enfin, je me suis plusieurs fois un peu frittée avec lui, idéologiquement parlant, justement, et qu'il voit dans cette polémique les nouveaux idéologistes du genre, mais en fait, ce qui me frappe, c'est que de l'idéologie, on en fait on en fait tout le temps, en fait, hein, qu'il y ait, que quel que soit le programme que lance, financé par des institutions, il faut qu'ils répondent à un certain nombre de critères que l'État, enfin les institutions cautionnent, que ce soit pas trop militant, ou que ce soit pas trop nanana, ou que ce soit en accord avec les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, sauf que encore une fois, c'est des concepts, ils peuvent recouper énormément de réalités assez contradictoires, je pense. Enfin, et on en a bien vu avec le terme de laïcité. Tout ça pour dire que la neutralité, j'y crois pas. Et quand Civitas appelle les familles françaises à réagir et à empêcher la diffusion de ce qu'ils appellent le film de propagande pour l'idéologie du genre, parce que, soi-disant, ça ne répond pas à la mission d'Arte, qui est de concevoir, réaliser et diffuser des émissions de télévisées ayant un caractère culturel, eh bien, j'ai envie de leur dire, mais qu'entendez-vous par culture et qu'entendez-vous par neutralité ? Il me semble que tout ce qui circule au niveau culturel n'est pas neutre. Enfin, bon.
Non, la neutralité, c'est pareil, ça n'existe pas. Donc, et moi, je pense que ça n'existe nulle part. Enfin, dans quelques mouvements que ce soit où il n'y a pas de neutralité.
Le savoir situé.
Moi, j'aimerais juste dire que si la neutralité existe, la neutralité, c'est la culture dominante.
Ouais.
Donc dès qu'on s'en écarte, forcément, on fait du prosélytisme et on vient essayer de diffuser nos théories, etc. Et dans un deuxième temps, je pense pas qu'il y ait d'hypocrisie au final. Je pense que c'est des personnes, enfin, ces mouvements anti-genre, anti-études de genre, anti-lutte contre les discriminations, etc. et qui réaffirment tout le temps, qui réassignent notre genre à notre. À notre sexe biologique, etc., savent très bien ce qu'ils font. Finalement, c'est des orateurs et ils savent utiliser les bons mots qui font peur. En plus, forcément, comme le gouvernement a fait un peu la promotion de ces idées-là et qu'il a toujours bon dos, ça correspondait à un bon moment pour faire cette campagne ultra-conservatrice. Mais voilà, en fait...
Mais justement, pour rebondir sur l'hypocrisie, je voulais dire, juste à la toute fin ou en deux mots, effectivement, parce que j'ai pas mal parlé d'hypocrisie et tout, moi, ce sur quoi je garde le terme d'hypocrisie, en tout cas, parce que je suis assez d'accord avec ce que t'as dit, Zab, moi, ce que je trouve hyper hypocrite, par contre, c'est les différentes personnalités politiques, parce que, justement, ces questions autour du genre, etc., de lutte contre les stéréotypes, etc., c'est quand même des mesures qui datent de 2011, et Jean-François Copé, pour ne citer que lui, parce que c'est loin d'être le seul, mais en avait déjà fait la promotion et était pour, dans une époque de pré-campagne présidentielle de 2012, certainement pour... rallier à sa cause les électeurs de gauche. Et aujourd'hui, il frappe sur le gouvernement de gauche pour rallier à sa cause, ou en tout cas à la cause de la droite d'une manière générale, UMP, les électeurs d'extrême droite, parce que c'est quand même des mesures. Je veux dire, François Hollande et le gouvernement Hollande, enfin le gouvernement Hérault, d'une manière générale, ne les ont pas sortis de leur chapeau comme ça après les élections. C'était quand même des mesures qui tournaient dans le milieu politique depuis un certain temps et dont on a entendu parler pour la première fois, en tout cas officiellement et massivement, en 2011, donc encore sous le gouvernement Fillon et avec Sarko au pouvoir. Donc faut arrêter aussi de... Enfin, les personnalités de droite qui frappent sur Hollande, là, c'est du foutage de gueule, quoi.
Je pense qu'on a trouvé peut-être le fin mot de...
Moi, je voulais revenir sur juste un petit truc. Justement, je pense que c'est avec tous ces mots-là, les gens les utilisent sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière, etc. Finalement, ce serait bien de rappeler tout simplement que le vent, c'est un concept qui permet aussi de travailler sur des... Comment dire ? Oh, je ne vais pas savoir faire ma phrase, mais en gros, grâce à cette notion... ça permet aussi d'ouvrir à des trucs qui, très concrètement et dit très très simplement, par exemple, permet de dire qu'il n'y a pas une nature de l'homme et une nature de la femme, que c'est des êtres qui, à la naissance et biologiquement, sont faits de manière tellement différente qu'ils peuvent pas faire les mêmes choses, ils n'ont pas envie des mêmes choses, ils se comporteront pas de la même chose, etc. Et que tout ça, ça viendrait d'un ordre naturel. Je pense que c'était la base aussi, et ça reste quelque chose d'important...
Dire aussi qu'il n'y a pas une masculinité, une féminité, et que voilà, c'est laisser les personnes...
Et qu'il y a même peut-être des choses qui ne relèvent pas de la féminité et de la masculinité.
Aussi, oui, carrément.
Qu'on compose des trucs qui font autre chose, quoi.
Ouais, tout à fait. Et parce que, justement, en parlant de masculinité et féminité, je reste dans un système binaire.
C'est
vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais oui, effectivement, ouais.
Musique. Ok, allez, hop, on va vous balancer une chanson qui est extraite de coup du film Billy Elliot et qui sorti en 2000, et la chanson s'appelle Children of the Revolution.
Bienvenue sur Jean Rage, votre émission. Lilloise.
Falling rain. I drive a Rolls Royce, 'cause it's good for my voice. But you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. We'll be right back.
C'était donc Children of the Revolution, extrait du film Billy Elliot paru en 2000. Et tout de suite, je laisse la parole à Zab pour qui va vous parler de la visibilité des LGBT, on va dire. Et puis, tu précises.
Et le groupe, c'était T-Rex, juste précisons. Oui, donc alors moi, je vais vous parler un peu de la question de la visibilité des personnes LGBT. Donc lesbiennes, gays, bisexuelles et trans. D'abord, pourquoi cette question ? Tout simplement parce que j'ai prêté un comics à un ami et il n'avait pas trop accroché et il s'en est suivi une discussion sur pourquoi moi j'avais aimé, etc. Donc ce comics, il s'appelle Batwoman. Il est sorti en 2006 chez DC Comics après avoir été ressuscité en quelque sorte puisqu'ils ont changé un peu la trame, enfin ils l'ont enrichi. Et dans cette version de Batwoman, en gros, Batwoman est lesbienne. Voilà.
Wow.
Et donc là, ce truc, en fait, ça vient un peu d'une espèce de, pas campagne, mais un changement, pas un changement de politique non plus, mais ils se sont dit, il faut que nos personnages de comics soient plus contemporains, soient un peu le miroir de la société d'aujourd'hui, finalement. Et il faut qu'on soit un peu plus inclusif. Donc je pense qu'ils pensaient aussi essayer d'inclure un peu plus de personnes, disons, racialisées. Et du coup, là, ils ont remanié un peu l'histoire de Batwoman et elle est devenue lesbienne dedans. Parce que dans l'ancienne version, je pense qu'ils faisaient pas trop allusion à sa vie amoureuse de manière générale. Et il me semble qu'ils ont créé un autre perso gay cette fois-ci, qui est Green Lantern, si je me trompe pas. Mais je sais pas quand est-ce que le bouquin est sorti ni rien. Et du coup, ce comic c'est très bien, moi j'ai adoré. Et je pense que mon pote avait pas trop aimé parce qu'il avait pas réussi à s'identifier à une femme lesbienne dans un comic, tout simplement. Qui nique des gars et qui se combat et tout comme une petite folle furieuse là. et du coup moi je voulais expliquer pourquoi j'avais trouvé ça important. Après c'est vrai qu'il est un peu difficile à lire parce qu'il utilise beaucoup la technique du flashback, voire à outrance je trouve, parce que sur 10 pages des fois on peut revenir sur il y a 2 jours il s'est passé ça, la page suivante c'était il y a 2 heures il s'est passé ça, la page d'après c'était il y a 10 ans il s'est passé ça, et la page d'après c'est bon maintenant il se passe ça. Du coup on a un peu de mal à savoir à quel moment on est, donc il est un petit peu difficile, l'histoire est un peu difficile à suivre des fois, mais l'histoire est super intéressante. Elle est surnaturelle et donc Batwoman n'a pas de pouvoir magique, mais c'est un peu comme Batman finalement. Son père est général, il a accès à une technologie de fou furieux et elle décide de retrouver sa sœur qui a disparu il y a 20 ans ou un truc comme ça. Et en essayant de la retrouver, elle se retrouve à combattre des méchants, quoi. En gros, elle se retrouve dans un espèce de truc de complot et en fait, elle tue sa sœur sans le savoir. Merde, j'ai spoilé, mais c'est pas grave. En même temps, on ne sait pas qui c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle la tue. Donc c'est pas grave si vous le lisez. Et en gros, ce qui est surtout très bien dans ce comics, c'est que le portrait psychologique de l'héroïne est assez bien soigné. C'est une personne qui est complexe, etc., quoi. Et sa vie amoureuse, elle est assez bien détaillée aussi, au plaisir des lectrices de comics, lesbiennes ou pas, d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai essayé d'expliquer à ce pote un peu l'intérêt de représenter des sexualités, des identités LGBT dans des comics, ou même que ce soit dans la littérature de manière générale, dans les films, dans les séries, tout ça, quoi. Et en gros, bah, pour commencer, peut-être expliquer ça veut dire quoi, la visibilité. C'est tout simplement le fait d'être reconnu comme une personne qui existe avec ses particularités. Là, en l'occurrence, c'est une sexualité. Et peut-être pour être plus clair, à l'inverse, si on est invisible, donc c'est que finalement la société ou une partie de la société nie notre existence en tant que en tant que lesbienne, gay, bisexuelle ou transsexuelle. Par exemple, là, c'est un truc un peu plus précis, mais dans le spectacle de la lesbienne invisible qui a été aussi adapté en BD, si je ne m'abuse, c'est l'histoire d'une lesbienne qui est femme. Donc qui est féminine selon les codes de la féminité, selon le code dominant de la féminité, et qui donc ne correspond pas au stéréotype de la lesbienne, qui serait par définition butch, masculine, ou en tout cas garçon manqué. Et du coup, finalement, on lui renie ce statut de lesbienne parce qu'elle fait trop femme. Si je me trompe pas, c'est ça l'histoire.
Ouais, parce qu'elle a pas adopté. En fait, c'est pas forcément. Elle est même pas femme. En fait, c'est qu'elle a pas trop adopté les codes culturels ou de la féminité ou de la masculinité dans culture lesbienne. Enfin, moi, il me semble, parce que je l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu un bon bout et c'était ce qui m'avait semblé. Enfin, en gros, elle a pas les attirails de la lesbienne, qui peut être reconnue, quoi. Que ce soit, je sais pas, la coupe de cheveux, la marque que tu choisis pour tes chaussures, ouais. Ta ceinture, le type de veste que t'achètes, ou enfin voilà quoi.
Spectacle d'Océane Rosemary d'ailleurs.
Voilà, j'avais pas précisé.
Elle a pas son perfecto, elle a pas ses, je sais pas quoi.
Ouais, de la lesbienne.
Voilà quoi.
Et du coup, voilà, donc pour revenir à notre question de visibilité, finalement, être visible, c'est le fait que un ensemble de personnes, et le plus possible généralement, vous reconnaissent en tant que personne existante, quoi, en gros. Et alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir des productions audiovisuelles et sur papier littéraires, quoi, qui représentent autre chose que l'hétérosexualité? Finalement, c'est parce que le présupposé dans notre société, c'est l'hétérosexualité, qui est en gros la norme toute puissante, qui est ultra représentée, puisque la très grande majorité des personnages de fiction sont hétéros. Et finalement, on grandit en étant influencé par cette hégémonie de l'hétérosexualité dans les représentations. Autrement dit, on intériorise cette hétérosexualité comme norme. Et on se développe, hein, qu'on soit enfant ou adulte, bien sûr, en sachant que la société va attendre de nous, si on se prononce pas pour autre chose que la norme, on va attendre de nous qu'on soit hétérosexuel, par exemple. Et ça, c'est une certaine forme de pression sociale. Et du coup, finalement, les histoires, ça nous dit, les histoires de fiction, là, en l'occurrence, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit à la fois comment le monde est, un peu comme un miroir, et surtout comment il devrait être, comment on doit avoir envie qu'il soit, en fait. Du coup, c'est le fait d'avoir que l'hétérosexualité qui soit représentée dans les fictions, c'est une injonction à l'hétérosexualité. Et quand, finalement, on ne correspond pas à cette norme, ça peut être vécu comme une certaine forme de violence symbolique, bien sûr, pas physique directement, mais puisque cette même norme est intériorisée par d'autres personnes, ça provoque chez des individus qui eux correspondent à la norme ou pas d'ailleurs, qui sont qui sont refoulés à venir harceler ou agresser, que ce soit verbalement ou physiquement, ouais, etc., des personnes qui, justement, s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles ou trans, tout simplement. Donc, finalement, d'ailleurs, mon propos, je le dis tout de suite, ça fonctionne pour la représentation des femmes, la représentation de la diversité des corps ou des couleurs dans les fictions, et etc., quoi, de manière générale. J'ai perdu le fil de mon histoire. Oui, et donc représenter ces sexualités qui ne sont pas la norme, en gros, ça permet à la fois de lutter. Ça permet à des personnes qui s'acceptent pas de se dire, finalement, je suis pas toute seule. sur Terre à être comme ça, c'est pas quelque chose de, c'est pas une maladie, parce que en donnant des représentations qui sont positives de sa sexualité, ça permet de se sentir mieux, tout simplement. Et puis ça normalise ses sexualités, ça en fait quelque chose d'autre que des déviances ou des trucs, enfin des sexualités minoritaires. Et du coup, ça permet aussi de dire qu'elles sont pas à minoriser. Et puis aussi pouvoir s'identifier à un personnage dans ce contexte d'hétérosexualité hégémonique, on va dire, c'est une très grande importance, je pense.
Peut-être aussi, me disait que ça permet aussi de montrer des scénarios alternatifs aux scénarios hétérosexuels.
Oui, scénarios de vie.
Ouais, voilà, des scénarios de vie, des scénarios de sexualité, de mode de vie, de pensée, d'identification, enfin tout simplement pour que pas que le modèle à la fois hétérosexuel et le modèle du couple aussi, du couple monogame, de la famille nucléaire, etc., peut aussi être déconstruit au travers de scénarios alternatifs où on voit que les choses peut-être se passent pas. Tiens, je regardais Bye Bye Blondie hier soir. Je re-regardais Bye Bye Blondie de Virginie Despentes, que quand il était sorti, je m'étais dit oh, je kiffe bien quand même. Après, je trouve que Virginie Despentes filme pas super bien, mais enfin voilà, je vais quand même bien kiffer. Bref, et en le re-regardant, il y a en gros à la fin, il y a enfin pas à la fin, pendant tout le film, le comment elle s'appelle déjà les deux, en gros celle qui est jouée par Emmanuel Béard, c'est Frances, et celle qui est jouée par qui est jouée par Béatrice Dalle, c'est
ouais,
ça.
Voilà.
Béatrice Dalle, c'est pas Frances, c'est bon. Bref, j'arrive pas à me souvenir.
Je sais plus comment elle s'appelle.
Bon, en gros, Frances.
Hein? Tu l'as vu?
Ouais, c'est bien ça. Ouais. Frances, c'est en gros, c'est une bourge qui vit, qui a un job à la télé, qui gagne plein de thunes et qui vit avec son meilleur pote PD. En gros, c'est ça. Mais qui sont passés pour un couple hétéro pour pas avoir de soucis avec son taf, quoi. En fait, on comprend très bien que c'est pour garder la face et puis parce qu'elle veut pas s'outer à son taf et tout ça.
Ça me rappelle quelqu'un.
Et grave. En fait, je t'avoue, je me suis un peu identifiée au truc. Et même si c'est plus compliqué que ça, oui, mais... Oui. Et voilà, et du coup qui vivent à deux mais à des étages différents de leur immeuble, etc. Et en fait donc Frances va inviter donc va appeler Béatrice Dalle chez elle pendant 15 jours, c'est son amour de jeunesse, sa passion de jeunesse et tout ça, nanana. Et elles vivent une première semaine de passion partagé, et ensuite Béatrice Dalle en a marre de son rythme régulé parce que c'est une grosse punk qui fuck la société, fuck ouais. Le système et fuck la bonne conscience et la bourgeoisie aussi, quoi. Et du coup elles finissent par se friter. Mais là où je voulais en venir, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ça construit d'autres scénarios. Enfin, je veux dire, quand tu regardes ça, tu te dis pas, ah ouais, bah, il y a une rencontre, puis ça et puis, bah, non, parce que, ah, bah, déjà, il y a déjà un personnage qui vient casser le duo, quoi, tu vois. Ou qui fait que c'est pas exactement seulement un duo. Il y a la question aussi de classe, enfin, évidemment, de classe sociale également qui se rencontre. Mais, donc, c'est pas juste, on va parler de, ah, tiens, c'est comme ça que les lesbiennes, machin. Enfin, je trouve que ça, c'est un exemple de scénario parmi tant d'autres qui peuvent et qui montrent qu'on est peut-être un peu moins dans le modèle famille nucléaire, même si, et ça veut pas dire que genre faut surtout pas en parler également pour les couples gays et lesbiens, enfin je veux dire évidemment, enfin on s'est aussi battu l'année dernière pour ça, mais voilà, mais il y a aussi d'autres scénarios, quoi, c'est là où je voulais en venir.
D'ailleurs, juste pour j'ai deux choses à dire rapidement, juste pour rebondir sur Bye Bye Blondie, ce qui est assez rigolo, c'est que dans le roman de Virginie Despentes, c'est un couple hétéro. Et alors que dans le film,
ah ouais,
c'est un couple lesbien. Ouais.
Ah ouais, d'accord, j'avais pas vu
le couple est hétéro dans le bouquin, en fait.
Et Bye Bye Blondie.
Ouais. Et moi, je trouve intéressant justement le passage du livre au film avec la même histoire, mais juste passage d'un couple hétéro à un couple lesbien, en fait.
Ah ouais, grave, c'est marrant.
Ça s'appelle même Impact, à mon avis.
Ouais.
Non, je pense pas, mais c'est Virginie Despentes qui l'a écrit, parce qu'au départ, c'est une romancière, enfin une écrivaine, donc voilà. Enfin,
elle est sortie avec Preciado depuis, quoi.
Voilà. Et enfin voilà, et juste pour revenir sur ce que tu disais, Zab, le fait de montrer justement ces autres scénarios de vie, etc., et de visibiliser les personnalités LGBT dans les BD ou dans les médias d'une manière générale, ça permet aussi
dans ce dont tu parlais sur la construction, etc., des personnes, enfin la construction et le fait pour les enfants de grandir, etc., ça leur permet aussi de grandir et de se construire avec une visibilité, enfin avec des... j'arrive pas à formuler ma phrase, mais en ayant une espèce de support, si on peut dire, parce que justement, tout le monde est amené, tous les enfants sont amenés à grandir dans une société hétéronormée, et ça permet de leur donner des repères. Différents,
auxquels ils puissent s'identifier.
Voilà, tout à fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
Non, mais si, c'est tout à fait ça. Et puis, j'allais dire autre chose, et puis en fait, j'ai perdu le fil, donc je vais passer à la suite de ce que j'avais préparé. Finalement, je voulais mettre tout ça, donc toute cette l'importance de cette représentation des sexualités et identités LGBT de manière générale dans les productions culturelles, avec le fait finalement d'être out quand on est à la fois une personnalité, on va dire un personnage médiatique, que ce soit une célébrité de cinéma politique ou quoi que ce soit d'autre, quoi, ou même sans en est monsieur et madame tout le monde, hein, finalement. Oui, donc je sais plus ce que je voulais dire. Oui, quel est le point commun finalement, justement, voilà, quand on est un personnage médiatique, on est un peu de la même manière que les représentations dans les bouquins, etc. On est un peu un modèle pour certaines personnes, pas toutes, hein, bien sûr. Et on sait que certaines personnes vont s'identifier à nous. Et finalement, être out quand on est lesbienne, gay ou bisexuelle ou trans, ça permet aussi de donner comme message au reste de la société, non, il ne faut pas se cacher avec sa sexualité, il faut s'accepter et l'assumer et pas en avoir peur. Et oui, peut-être qu'on subira un certain nombre de violences, mais il faut lutter contre ça et ce n'est pas en restant caché qu'on va le faire. Et c'est la raison pour laquelle Ellen Page...
C'est outé,
je ne sais plus, la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Maintenant.
Un truc comme ça. C'est hyper, hyper émouvant en plus. Ça.
Ouais, puis elle l'a fait. Elle l'a pas fait dans un lieu anodin. Enfin, je veux dire, elle l'a fait dans une conférence justement de lutte. Et Jodie Foster aussi, qui l'avait jamais dit, mais on savait qu'elle était lesbienne, s'est outée officiellement aussi. je pense à peu près au même moment.
Ah ouais.
Ouais, je pense que c'était même au même moment, mais.
Ah non, c'était il y a plus longtemps.
Bah en fait.
Elle a reçu un Oscar, je sais plus en quelle année, il y a 2 ans ou 3 ans déjà.
Bah en fait, c'était officieux. Elle l'avait jamais dit clairement. Elle s'était pas vraiment cachée parce qu'elle avait une compagne qu'elle a toujours d'ailleurs, etc. Donc, mais elle a jamais dit clairement voilà, je suis lesbienne. Et je pense qu'au moment où Ellen Page s'est outée, Jodie Foster l'a verbalisée en fait.
Ok, possible. Et du coup, là où je voulais en venir, donc qu'on soit un personnage médiatique ou pas, c'est ça reste une démarche qui est hyper importante pour moi à faire, ne serait-ce que d'un point de vue de transparence.
Ouais.
Pour situer un peu le discours de l'autre, savoir de quel point de vue il va l'avoir, etc. Et puis aussi, c'est une manière de militer et de dire non, je veux pas devoir me cacher dans la société, quoi. Et je ne sais plus où je voulais. Ah oui. Et je voulais revenir. Enfin, je voulais poser la question. Je ne sais pas si on a le temps. On n'a pas vraiment le temps. Je vais le faire en deux petites secondes.
Il reste 2 minutes. Ouais.
Il y a une pratique qui se fait pas mal. Bon, c'est vrai qu'en France, des personnages politiques. Outé, on en a pas, je pense, on ne doit pas en avoir des masques.
On en a découvert, découvert certains députés gays, surtout un en particulier, mais non, je me souviens plus le nom pendant le débat sur la manif, mais voilà.
Dans le cinéma et tout, machin, il y en a peu quand même.
Ouais. Mais aux États-Unis, il y a un truc qui se fait beaucoup, ça s'appelle de l'outing, c'est des personnes qui finalement, d'une manière ou d'une autre, savent que tel ou tel personnage politique. Et lesbien ou gay ou bi ou quoi ou trans et qui l'out mais sans l'accord de la personne.
Ouais, d'ailleurs il me semble que c'est quand même ce qui distingue le outing du coming out.
C'est ça.
Ouais.
Et finalement moi la question que je voulais poser, enfin je voulais savoir ce que vous en pensiez. Moi je trouve que c'est une démarche qui est quand même assez violente et intrusive, mais finalement par exemple aux États-Unis c'est arrivé souvent avec des personnes qui étaient hyper conservatrices et qui luttaient contre les droits LGBT par exemple et qui étaient qui avaient des pratiques homosexuelles dans le cadre privé et finalement on en a déjà discuté un petit peu je pense de la dichotomie entre ce qui est public et privé finalement est-ce qu'il y a un privé à 100% je suis pas sûre que ça existe. c'est politique.
Non, mais
aussi.
C'est tout le truc du coming out. Mais par contre, le faire contre le gré de quelqu'un, je trouve que c'est un peu violent. C'est marrant, dans The L Word, il y en a une qui... celle qui est la plus militante, en fait, parmi tout le groupe de lesbiennes, enfin, tous ces groupes de potes, qui a une émission, en fait, sur la culture lesbienne, quoi, en gros, on peut dire. Ouais, Alice, voilà, merci. Je parle de son prénom. Ben, c'est elle qui, à un moment donné, out un gay dans une soirée.
Ouais. Mais elle, voilà. C'est un basketteur, enfin bref, mais ouais, effectivement. Mais elle s'excuse, d'ailleurs, parce que, justement, elle trouve ça super violent.
Ouais, voilà,
c'est ça. Violent, mais moi je trouve que c'est la responsabilité de ces personnes-là de le faire finalement.
Ouais.
Ça, et c'est parce que des personnes comme ça ont peur que ça influence leur carrière et ils le font pas, que c'est un engrenage interminable au final, quoi.
Ouais.
Enfin bref.
On va peut-être prochain débat sur le coming out, peut-être. Ce serait cool d'en parler.
Voilà. Ouais,
on va parler peut-être coming out dans une prochaine émission. En attendant, on vous laisse avec votre émission de jazz préférée pour My Favorite Things. Et on vous dit à dans 15 jours.
Salut.
Salut.